Alors, en principe, chaque heure d'exposé, c'est demi-heure. Vous devez obéir à cette règle à la japonaise, s'il vous plaît. Alors, d'abord, premier exposé, c'est M. Masahiro Sogabe, professeur de droit public à l'Université de Kyoto. Le sujet, c'est la théorie constitutionnelle française au Japon, du 19e siècle au présent. Alors, M. Masahiro Sogabe, vous avez la parole.
Bonjour. D'abord, je voudrais exprimer mes sincères salutations et remerciements à professeur Monjal, Université de Tours et tous ceux qui ont coopéré pour le programme Nihon Europe et ce colloque très ambitieux. Et maintenant, vous avez un petit résumé d'une page, peut-être dans votre sac ou qui va être peut-être distribué à tout à l'heure. Et c'est un petit résumé sur lequel sont écrits le nom de certains personnages qui va apparaître dans mon communication pour rendre facile la compréhension de ces noms dont la prononciation serait souvent compliquée pour les Français. Donc, pour introduire, comme les autres branches de sciences juridiques japonaises, la doctrine du droit constitutionnel a été beaucoup influencée par celle étrangère depuis sa naissance à la fin du XIXe siècle. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'école allemande Staatsrechtslehre qui a dominé la doctrine constitutionnelle japonaise. Après la guerre, la doctrine et la jurisprudence constitutionnelle américaine constituent, toujours avec celle allemande, une des grandes sources d'inspiration pour les constitutionnalistes japonais. Cela ne veut pas dire que le droit français n'a aucune présence. Les idées politiques françaises ont enseigné beaucoup depuis le début de l'ère Meiji. Plus particulièrement, les auteurs japonais puisent les idées dans l'histoire constitutionnelle française qui est très riche. La doctrine constitutionnelle au stricto sensu s'impose sur certains sujets. Le nom des grands constitutionnalistes français sont très connus. De plus, il y a toujours un certain nombre de professeurs francophones, surtout après la guerre. Ils écrivent beaucoup sur une adoption de textes liés au droit constitutionnel ou d'autres phénomènes constitutionnels en France, ainsi que sur la doctrine constitutionnelle contemporaine. Tout cela contribue à enrichir le débat qui est d'ailleurs dominé par les écoles allemandes et américaines. Dans cette communication, je vais préciser ce que j'ai dit pour repérer bien sa position dans le paysage général. Je ne me focalise pas sur l'influence du droit français, mais je voudrais dessiner une petite histoire constitutionnelle japonaise depuis le début de l'ère Meiji. Donc je vais entrer dans le chapitre premier. Avant la Constitution de 1889, la modernisation du système juridique a commencé avec l'avènement de l'ère Meiji. C'est une des priorités pour le gouvernement de Meiji, car elle a constitué une condition préalable pour la modification des traités d'amitié et de commerce signés dans les années 1860 entre le Japon sous le shogunat et les pays de puissance, y compris la France, et qui étaient très défavorables et inégaux pour le Japon. C'est ce qui est évoqué par professeur Nishimi hier. Le gouvernement s'est lancé dans cette mission pour prendre le droit français comme un modèle. Il a invité Gustave-Émile Boissonnade alors professeur à l'Université de Paris, comme conseiller juridique du gouvernement. Il est arrivé à Tokyo en 1873 et travaillerait pour l'établissement du système juridique moderne pendant plus de 20 ans avant de le quitter en 1895. On sait que son buste a été dédié par le gouvernement japonais à l'Université de Paris, juste devant le Panthéon. Il a donné des conseils sur nombreux projets de loi et d'autres textes. Et ce qui est également important, c'est qu'il a formé des juristes japonais. Il a enseigné à l'école de droit du ministère de Justice, puis a institué une école privée de droit qui était actuellement l'université Hosei de Madame Tateishi. Cela dit, ces activités ne sont pas étendues au droit constitutionnel qui est notre intérêt ici. On peut trouver une influence des idées politiques françaises dans le mouvement dit « Jiuminkendo », c'est-à-dire « Mouvement pour la liberté et les droits du peuple ». Et maintenant, on se trouve au deuxième point. Il y a eu une revendication d'une constitution ou d'un établissement de parlement depuis tout début de l'ère Meiji. En 1874, c'est-à-dire septième année de Meiji, certains publicistes ont déposé au gouvernement la proposition d'établissement du parlement élu par le peuple. Cela a marqué un début de mouvement qui a duré pendant 15 ans. Des partis politiques étaient très nombreux sur l'ensemble du territoire japonais. Plusieurs dirigeants sont apparus. Parmi eux, on ne peut pas oublier Chomin Nakae. Il était philosophe, journaliste et devenu député après l'établissement du Parlement. Étant étudiant en France pendant 2 ans, il s'est familiarisé avec les œuvres d'idées politiques françaises telles que Voltaire, Montesquieu, Rousseau, etc. En 1881, il a créé un journal soutenant le libéralisme radical sur lequel il a écrit des articles, ce qui lui a fait un des grands idéologues du mouvement. Il a traduit du contrat social de Rousseau, d'abord en 1874 et puis en 1882. Cette traduction de Rousseau a touché profondément un dirigeant important du mouvement, Emori Ueki. Grâce à cette œuvre, il est arrivé à revendiquer chaleureusement le principe de souveraineté du peuple à la Rousseauienne. En 1881, il a rédigé une proposition de constitution dit Toyo Dai Nihon Koku Koken. C'est sa proposition de constitution et qui est connue pour le caractère le plus radical parmi nombreuses propositions faites à cette époque. Ainsi, tout en conservant le régime monarchique, elle prévoit la souveraineté du peuple et les droits naturels de l'homme, qui comprend même le droit de résistance à l'oppression. Bien sûr, de l'autre côté, il y a un parti plus modéré qui a élaboré une proposition de constitution avec un régime parlementaire à l'anglaise. En tout cas, à cette époque, des partis ou groupes politiques étaient nombreux qui ont proposé en concurrence. Même un membre du gouvernement de l'époque, Shigenobu Okuma, qui est fondateur de l'université Waseda, a revendiqué dans une lettre d'une opinion déposée en mars 1881 l'établissement du Parlement et l'adoption d'une constitution de type anglais aussitôt possible. Ce comportement d'Okuma a déclenché une crise politique de 4e année de Meiji, soit 1881, dit Meiji Juyonen. À la suite de cette crise, Okuma a été chassé du gouvernement et le gouvernement a décidé sa politique d'introduire le constitutionnalisme. Il a pris de la constitution prussienne pour un modèle qui faisait valoir la prérogative de l'empereur et rejeté le régime parlementaire et les droits naturels de l'homme. Dès ce moment, le gouvernement a commencé à se pencher pour le droit allemand. Même si Poinçonnade reste conseil du gouvernement, d'autres conseils juridiques allemands, Hermann Ressler, est devenu important dans le gouvernement. Surtout pour les choses constitutionnelles et le droit commercial. Et ce qui est important pour l'histoire constitutionnelle, c'est qu'une délégation du gouvernement a été envoyée en Allemagne et en Autriche en 1882 pour préparer les travaux de rédaction de la constitution de Meiji. Hirobumi Ito, grand homme politique de Meiji et chef de cette délégation, a suivi à Vienne un cours individuel de Lorenz von Stein, grand constitutionnaliste autrichien de l'époque. Dans cette situation, l'Allemagne est devenue une destination privilégiée de jeunes constitutionnalistes japonais pour ses études. Ainsi, le premier professeur de droit constitutionnel à l'université impériale, pas l'université impériale de Tokyo, parce qu'il n'y a qu'une université impériale jusqu'à ce que l'université impériale de Kyoto ait été instituée en 1897. Donc, premier constitutionnaliste, Yatsuka Hozumi, a étudié pendant plus de 4 ans à Strasbourg, sous la direction de Paul Labant. Et donc, deuxième chapitre, la constitution de 1889 et le Staatsrecht. Le 11 février 1889, l'empereur a solennellement donné la constitution de l'empereur du Japon, dite constitution de Meiji. Cette constitution a été rédigé par Hirobumi Ito et quelques hauts fonctionnaires de son bras droit avec des conseils de Hermann Ressler. Le pilier de la constitution de Meiji est le principe monarchique qui a son origine dans la charte française de 1814 et a vu son développement dans les constitutions de pays allemands, y compris la constitution de Bismarck, qui est une source principale de la constitution de Meiji. Sous cette constitution, la doctrine constitutionnelle est dominée par l'école allemande. En effet, même s'il y a deux grands courants dans la doctrine constitutionnelle japonaise, soit l'école légitimiste et l'école constitutionnelle, les deux sont beaucoup influencés par la théorie constitutionnelle allemande, dit Staatsrechtlehre. L'école légitimiste, représentée par Hozumi, dont on a dit tout à l'heure, veut être fidèle à l'esprit original de la constitution de Meiji. En particulier, elle fait valoir le caractère fondamental de l'État japonais, qui consiste à dire que la maison impériale remonte à l'ère du mythe et le pilier du peuple japonais. L'expression juridique de cette idée est la souveraineté de l'empereur. En revanche, l'école constitutionnelle ou l'école constitutionnaliste, représentée par Tatsukichi Minobe ou Soichi Sasaki, tente d'interpréter la constitution de la manière d'élargir les pouvoirs du Parlement impérial et d'encourager l'établissement de la pratique du régime parlementaire. Quant à la souveraineté, elle fait référence à la théorie de la personnalité juridique de l'État, ou autrement dit, la théorie de l'empereur comme un organe d'État, d'après laquelle la souveraineté n'appartient pas à l'empereur, mais à l'État lui-même, comme la personnalité juridique, et l'empereur n'est qu'un organe suprême quand même de cette personnalité de l'État. Il va sans dire que cette théorie est perfectionnée par Georg Jelinek. Ainsi, l'école constitutionnelle relativise le statut de l'empereur. De toute façon, il est important que cette controverse se soit déroulée en utilisant un des termes de Staatsrechtslehre. C'est pourquoi on peut dire que la doctrine constitutionnelle est dominée par la théorie allemande. Ça ne veut pas dire que l'étude sur le droit constitutionnel français n'a pas existé sous la constitution de Meiji. À part que les auteurs déjà mentionnés dans cette communication citent sporadiquement les œuvres françaises, je voudrais présenter deux auteurs francophones importants. D'abord, Toshiyoshi Miyasawa, qui était professeur de l'Université impériale de Tokyo et est devenu constitutionnaliste le plus représentatif après la guerre. Alors qu'il est kelsenien au niveau de méthode de recherche, Miyasawa a écrit beaucoup sur la doctrine constitutionnelle ou fait liés au droit constitutionnel français. Ainsi, il a présenté la théorie de Léon Duguay et de Maurice Olive, traduit de l'esprit des lois de Montesquieu, et écrit sur les questions alors débattues en France comme le contrôle de constitutionnalité des lois ou la réforme de l'État qui a été débattue en France dans les années 30. Ensuite, aujourd'hui, moins connu que Miyasawa, Shigehara Moriguchi est ancien professeur de l'Université impériale de Kyoto. Il a séjourné deux fois en France pendant 3 ans au total. S'il n'a pas non plus rejeté une approche de Staatsrechtslehre, il est important qu'il ait placé le centre de son intérêt scientifique de l'analyse juridique de l'État à celui politique. Ça veut dire qu'il s'est intéressé au bon fonctionnement de la politique parlementaire sous la constitution de Meiji. Il a écrit un grand livre en 1929. Intitulé Kensen Genri to Unyo, c'est-à-dire le principe et le fonctionnement de la politique parlementaire, dans lequel il a procédé à une analyse comparative de pays occidentaux. Il est très intéressant de notre intérêt ici que cette approche de Moriguchi semble correspondre à la tendance de la théorie constitutionnelle française de l'époque, représentée par le nom d'Adhémar Esmain ou Joseph Barthélemy, etc. Alors, on va dans le chapitre 3, sur le régime de la Constitution de 46. Après la capitulation d'août 1945, une nouvelle Constitution a été adoptée et promulguée le 3 novembre 1946. Elle fait de l'empereur souverain un symbole de l'État japonais et intégrité de la nation. La nation est désormais souveraine. Les droits de l'homme sont bien formulés dans la Déclaration des droits qui fait partie de la Constitution. Le régime parlementaire est presque expressément prévu et le contrôle de constitutionnalité des lois de type américain a été établi. Sous la Constitution de 1946, l'école allemande restait puissante. L'analyse juridique de l'État de la manière de Staatsrechtslehre a été maintenue. Puis, l'étude de la nouvelle tendance théorique sous la Constitution de Weimar s'est bien avancée. C'est particulièrement le cas pour Hans Kelsen et Carl Schmitt. Les théories nés en Allemagne après la guerre, ont été tout de suite emportés au Japon. Plus récemment, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle allemande est bien étudiée. Certains auteurs contemporains revendiquent que le principe de proportionnalité de la manière dont la Cour constitutionnelle allemande exerce devrait être utilisé par la Cour suprême japonaise. D'autre part, à cause de l'introduction du contrôle de constitutionnalité des lois de type américain, la doctrine s'est intéressée à la pratique du contrôle exercé par la Cour suprême des États-Unis. Alors qu'elle était très exceptionnelle avant la guerre, l'étude sur le contrôle de constitutionnalité américain est recommencée depuis la fin des années 60 et devenue un sujet de recherche très favori depuis les années 80. Dans ce contexte, la théorie américaine de la liberté d'expression montre une présence écrasante dans la doctrine japonaise. Moi, personnellement, je travaille pour relativiser cette situation en faisant référence au droit français ou européen. En tout cas, à côté de cette lutte des écoles allemandes et américaines pour l'hégémonie de la théorie du droit constitutionnel, l'école française déploie des mouvements de guérilla. Autrement dit, la théorie constitutionnelle française alimente la doctrine d'interprétation de la Constitution de 1946 sur quelques points particuliers, alors que son étude est très approfondie sans influencer l'interprétation de la Constitution positive. D'abord, on va un peu vite pour le second point. L'analyse des grands auteurs français est très approfondie à tel point qu'il est regrettable que ces œuvres n'aient pas été traduites en français. En fait, on voit plusieurs œuvres d'études sur les grands constitutionnalistes de la Troisième République, tels que Esmond, Duguay, Olieu, Calais de Malbelgue, René Capitan, etc. Mais ces études ont été menées à la base de l'intérêt purement scientifique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été servies pour interpréter les textes constitutionnels de 1946. Ainsi, personne ne sert pas de la théorie de l'institution de Maurice Olieu pour l'interprétation de la Constitution de 1946. Ensuite, on revient au premier point. Il y a quelques sujets particuliers où la théorie française offre une perspective pour l'interprétation du texte. D'abord, la souveraineté de la nation ou du peuple. L'article 1er de la Constitution de 1946 prévoit comme suit, c'est-à-dire que l'empereur est le symbole de l'État et de l'unité du peuple. Il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain. Il y a un débat sur comment interpréter la seconde moitié de cette disposition de l'article 1er. Le cadre de débat est fourni par la théorie du Carré de Malbergue qui distingue la souveraineté du peuple et celle de la nation. La doctrine japonaise se dispute à la base de cette dichotomie. Sur cette question, l'étude de Yasuo Sugihara est emblématique. Il a écrit plusieurs gros livres sur cette question, dans lesquels il a étudié l'histoire constitutionnelle française, surtout de période révolutionnelle et la théorie française sur la souveraineté, pour dire sous certaines influences de marxisme que la Constitution de 1946 prévoit la souveraineté du peuple. D'autre part, il y a une thèse qui explique cette disposition par la théorie du pouvoir constituant qui est proposée par C.S. et approfondie par Carl Schmitt. Ensuite, lié à la question de la souveraineté, la théorie de la représentation française est également conçue pour l'interprétation de l'article 43, alinéa 1, qui dit « Les deux chambres se composent de membres élus représentants du peuple tout entier. » Ici aussi, le schéma établi en France qui distingue la représentation pure, le régime semi-représentatif, etc., est largement reçu. Alors que ces débats sont assez classiques, qui ont été vivement mentionnés et dans les années 70, on va présenter maintenant un sujet plus contemporain qui est lié au régime parlementaire. Il y a eu un débat classique sur la question à savoir quel type de régime parlementaire la Constitution de 1946 a-t-elle adopté. Ici aussi, on a retenu le schéma de Robert Hazelop tiré de l'histoire de la Troisième République qui distingue le régime parlementaire authentique et celui non authentique. En fait, cette question s'impose au début, après la guerre, parce que la Constitution de 1946 ne prévoit pas expressément la possibilité du gouvernement de dissocier la Chambre de représentants, la Chambre basse. Mais au fur et à mesure que la politique fonctionne, cette question a été pratiquement résolue. Une question plus contemporaine liée au régime parlementaire, c'est de savoir comment peut-on renforcer l'autorité du gouvernement, puis du Premier ministre. On sait que le gouvernement et le Premier ministre japonais sont souffert de l'instabilité constante et du manque d'autorité vis-à-vis du parti majoritaire, parti au pouvoir et les ministères, donc bureaucratie. Ce qui encourage l'incohérence des politiques et l'insuffisance de la stratégie politique. Pour faire face à ce problème, une réforme a été tentée dans les années 90. Avec cette réforme, l'autorité du Premier ministre est désormais établie, ce qui est facilement pressenti si on voit l'actuel Premier ministre. Ce qui est important ici, c'est qu'il y a une théorie constitutionnelle qui a justifié et encouragé cette réforme. Ça s'appelle « Kokumin Naikakusei », qu'on pourrait traduire le régime parlementaire populaire. C'est Kazuyuki Takahashi qui a proposé cette théorie. Il pense que la démocratie contemporaine exige que le peuple doive être capable de choisir une grande ligne de politique et ceux qui en sont responsables. Pour cela, il est souhaitable que le fonctionnement du régime parlementaire soit nouvellement conçu pour répondre à ces exigences. Précisément, il est nécessaire un système électoral capable de réaliser un système de partis politiques bipartisans et qui permet au peuple de choisir un premier ministre pratiquement en direct. Ces idées de Takahashi sont largement inspirées par la théorie du régime populaire de René Capitan et de l'opposition avancée par Maurice de Verger entre la démocratie directe, entre guillemets, et celle médiatisée. Pour finir, je voudrais faire une remarque sur la théorie constitutionnelle de Yoichi Higuchi. S'il a présenté beaucoup de thèses pendant 40 ans de sa carrière, je me limite à sa théorie générale sur la structure de l'État moderne ou le constitutionnalisme moderne. En fait, il tire de l'histoire constitutionnelle occidentale du modèle d'État moderne. L'un est le modèle américain basé sur le pluralisme. L'autre, c'est le modèle français dans lequel est la dichotomie entre l'État et l'individu, ou l'opposition entre la souveraineté et les droits de l'homme. Higuchi prend le modèle français pour un type idéal de l'État moderne et analyse l'État japonais à son aune. Ainsi, il a beaucoup critiqué le caractère corporatiste de la société japonaise, car ce caractère consiste à faire valoir des corps intermédiaires qui risquent, selon lui, d'entraver les individus ou les droits d'homme. Et puis, il persiste à l'universalité des droits de l'homme tels qu'ils ont été conçus à l'époque de la Révolution française. Il est donc fort sceptique sur la notion des droits à la différence qui sont revendiqués par des différents groupes. Dans cette mesure, il est fidèle à l'idée de la République française. D'autre part, en évoquant l'opposition entre la souveraineté et les droits de l'homme, Higuchi ne cache pas sa préférence au dernier. Autrement dit, il préfère le constitutionnalisme sur la démocratie. Cette perspective est bien opposée à la thèse de la souveraineté populaire avancée par Yasuo Sugihara. Enfin, la notion des droits de l'homme défendue par Higuchi est centrée sur la liberté contre l'État, pas la liberté par l'État. Cela est nettement différent de celle défendue en France contemporaine. En résumé, la théorie de Higuchi trouve sa source d'inspiration dans la théorie historico-constitutionnelle française pour former une conception remarquable du constitutionnalisme moderne. En conclusion, si c'est vrai qu'elle n'ait pas pu constituer la grande ligne de la théorie acceptée au Japon, vous pourriez bien comprendre que la théorie constitutionnelle française montre sa présence depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui pour enrichir le débat chez les constitutionnalistes japonais. Je finis par faire remarquer qu'il y a quelques auteurs japonais qui écrivent en français, soit pour faire une comparaison franco-japonais, soit pour présenter ce qui est le droit japonais sur tel ou tel sujet. Comme vous auriez bien compris, le Japon est un calfeur du droit comparé où des droits de plusieurs pays sont profondément étudiés et comparés. Je crois que c'est un avantage pour venir étudier au Japon. J'espère que l'échange désormais réciproque va se développer par voie de ce colloque ou sa suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci.